Radio Kapi. Oh, Kapi. Jean-Désiré Kanyama pour les journaux.
Les stratégies communes visant à relever les défis de développement de leurs entités au centre de la rencontre des gouverneurs des cinq provinces de l'Est. C'est depuis hier, lundi à Goma, au Nord Kivu, dans le cadre de la première conversation régionale organisée par les PNUD et la MONUSCO. Jour J-3 du démarrage à Kinshasa des 9e Jeux de la Francophonie. Selon les organisateurs, les athlètes déjà présents à Kinshasa s'entraînent sur le site du stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs et au gymnase de la police. Les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les gouverneurs des cinq provinces de l'Est de la RDC réfléchissent depuis hier, lundi à Goma, au Nord Kivu, sur les stratégies communes visant à relever les défis de développement de leurs entités. C'est dans le cadre de la première conversation régionale organisée par le Programme des Nations Unies pour le Développement et la MONUSCO. Cette rencontre qui va durer 3 jours est coordonnée par le ministère du Plan. Des détails avec Bernard Denyangui.
Accompagnés des membres de leur gouvernement provincial, les gouverneurs du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri et Tanganyika vont réfléchir pendant les 3 jours sur les réponses coordonnées aux problèmes de développement, sécurité et aux défis environnementaux dans leurs provinces sœurs. L'objectif, selon un expert du PNUD, est de promouvoir la coopération entre ces provinces confrontées généralement aux défis similaires. Isaac Moussoko Romayaya.
Au-delà des défis de sécurité, il y a des catastrophes naturelles et des changements climatiques qui ont connu des répercussions qui dépassent les cadres d'une seule province. À noter aussi les défis de développement par la faible présence de l'autorité de l'État dans certaines zones. Ces provinces de l'Est connaissent aussi et des réalités sociopolitiques similaires étant donné qu'elles font face à la zone est africaine.
Au terme de ces 3 jours de conversation, les 5 gouverneurs devraient produire un plaidoyer commun pour la coopération interprovinciale dans des secteurs du développement, la prévention de la crise sécuritaire et des réponses aux effets du changement climatique et des catastrophes naturelles. Goma, Bernard Denyangui, Radio Kapi.
En Ituri, la situation sécuritaire s'est améliorée dans plusieurs localités de la province grâce aux opérations conjointes FARDC et MONUSCO, ce qui a permis le retour de certains déplacés, notamment vers Tchabi et Boga dans les territoires d'Irumu. C'est le gouverneur de province qui l'a dit hier lundi au cours d'une réunion avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Cependant, les deux parties se sont engagées à consolider cette paix relative. Des détails avec Isaac Remoyopé.
Des avancées significatives sont observées sur le plan sécuritaire dans plusieurs entités de la province, a déclaré le gouverneur à son hôte Bintou Keïta. De nombreux déplacés ont regagné leurs milliers d'origine, notamment au sud d'Irumu, dans les chefferies de Maema Boga et Banyari Tchabi. Selon le général Johnny Luboya Kachama, c'est le résultat de la pression des FARDC contre les groupes armés, mais aussi des opérations conjointes FARDC casque bleu de la MONUSCO. À côté de la réponse militaire, il a souligné que les dialogues communautaires ou entre les leaders des groupes armés tels que celui d'Arou, qui ont abouti à la signature d'un protocole de paix vise à restaurer durablement la relative paix actuelle. Cette accalmie est également consécutive aux efforts de la justice militaire qui a lancé des mandats d'arrêt contre des leaders de ces milices dont certains sont déjà aux arrêts et d'autres neutralisés par l'armée. La chef de la MONUSCO Bintou Keïta s'est réjouie de la prise en compte de l'aspect judiciaire dans la recherche de la paix. Madame Keïta et le gouverneur ont résolu de consolider ces acquis à travers les renforcements des moyens déjà déployés pour contrer les groupes armés et de mettre en place de nouveaux mécanismes pour une paix durable en Ituri. C'est dans ces cadres que Centre conjoint d'opération FARDC MONUSCO a été créé. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, la société civile de l'Axe Mbouan-Vignoua, Bounian-Tengue, dénonce l'instauration d'une taxe illégale par des groupes d'autodéfense de Ouazalendo. Selon la société civile, cette situation ne fait qu'accentuer les souffrances de la population. Son président appelle le gouvernement à l'identification de tous les groupes d'autodéfense actifs dans le territoire de Lubero et à la restauration de l'autorité de l'État dans la région. Mumbere Mouheni est au téléphone de Martial Papimoukeba.
Kirumba et ses environs, il y a paiement forcé des taxes illégales communément appelées jeto au niveau de Kiobi. Là, c'est dans la partie appelée Entrade où nos habitants, nos civils, victimes de ces paiements forcés par les soi-disant Ouazalendo que nous ne connaissons pas, comment nous pouvons les identifier par rapport à la situation qui se présente cette situation cause beaucoup de frustration. Nous sommes en train de pleurer tous les jours. Nous sommes en train de lancer nos cris d'alarme. Nous sommes en train de supplier au gouvernement central de pouvoir réunir tous ceux qui se disent oisalendo autour d'une table, tous ces seigneurs de guerre qui sont en train d'intimider nos populations pour qu'on sache qui est oisalendo et qui ne l'est pas.
Ici à Kinshasa, 24 officiers, dont 18 Congolais et 6 autres de nationalité camerounaise et centrafricaine sont sortis de l'école de guerre de Kinshasa. Ces 18 Congolais sont mis dès hier lundi à la disposition de l'état-major général des FARDC. Ils ont reçu leur brevet des mains du vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. À l'occasion, le ministre de la Défense a souligné les principaux défis qui les attendent et les a exhortés notamment à éviter trois maux, notamment l'échec, mais a aimé trois vertus parmi lesquels l'excellence en leur qualité d'officier breveté de l'école de guerre. On écoute Jean-Pierre Bemba dans cet extrait choisi par Jacques-Yves Molima.
La troisième promotion termine sa formation au moment où la sous-région en général, et plus particulièrement la République démocratique du Congo et son armée, sont confrontées à un défi majeur d'insécurité. Sinon, à quoi servirait la formation si la sous-région, si je dois me répéter, et particulièrement la République démocratique du Congo, continue à être la risée des prédateurs de tous bords jusqu'à voir une partie de sa nation domptée par d'innombrables groupes armés et un de ses pays voisins, en l'occurrence le Rwanda. Ressortissant des pays amis et congolais ici présents, vous devez en être conscient et retenir qu'un officier et de surcroît un officier breveté de l'école de guerre doit éviter trois maux, la honte, le parjure et l'échec. Et il doit aimer trois vertus, l'honneur, la réussite et l'excellence.
Notons que depuis l'ouverture de cette école en 2020, 74 officiers y ont été brevetés. Jour J, moins 3 du démarrage officiel à Kinshasa des 9e Jeux de la Francophonie. Selon les organisateurs, les athlètes déjà présents à Kinshasa s'entraînent sur les sites du stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs et au gymnase de la police. Entre-temps, au stade des Martyrs, les travaux des infrastructures sont finis et maintenant c'est la place au nettoyage. Pendant qu'au stade Tata Raphaël, nos reporters se sont vus refuser l'accès. Mais où en sommes-nous avec les préparatifs de ces Jeux? Vanessa Kongolo, reportage.
Le jeu de la francophonie avance à grands pas. Les athlètes se préparent sans relâche pour gagner le médaille. José Diakanoa, judoka congolais dans la catégorie de moins de 81 kilos, veut pour sa première participation au jeu de la francophonie rendre son pays fier.
Présenter la nation, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose de ouf, je pourrais dire ça.
Côté infrastructure, au stade de Martyrs, tout est fini, affirme Modasser Arbid, directeur général de l'entreprise Compagnie Générale de Construction qui a construit et réhabiliter les infrastructures sur les sites des Martyrs.
Nous avons construit le gymnase jumelé de basketball. C'est un gymnase qui peut contenir 5000 spectateurs. L'un prend 3000, le deuxième 2000. Et le deuxième travail qu'on a fait, c'est la couverture, disons, du stadium de basketball qui, lui, peut contenir 800 personnes.
Plusieurs délégations sont, par ailleurs, annoncées à Kinshasa. L'accès au stade de Martyrs pour la cérémonie d'ouverture sera gratuite, a affirmé à Radio Okapi Isidore Nkwa. Mais à une condition.
La cérémonie sera gratuite. Toutefois, pour y accéder, il faut avoir un bracelet. Nous allons vous indiquer les points de chute où vous devez aller vous procurer ce bracelet. Même si c'est gratuit, nous devons savoir combien de personnes qui rentrent, quelle est la catégorie de personnes qui rentrent.
Notez que les Jeux de la Francophonie iront du 28 juillet au 6 août 2023 ici à Kinshasa. Un processus électoral dans la province du Kwilu. Plus de 1300 candidatures ont été enregistrées dans l'ensemble de la province, parmi lesquelles 300 féminines. Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Kwilu, qui donne ces statistiques, toutes ces candidatures déposées proviennent d'au moins 400 listes. Jean-Robert Mouyensé l'a dit hier lundi, au lendemain de la clôture de l'opération de réception et traitement des candidatures. Il explique ici au micro d'Irène Boma.
Nous venons de clôturer l'opération de réception et traitement des candidatures dans la province du Kwilu. Les statistiques se présentent de la manière suivante. Nous avons 426 dossiers reçus, ce que nous appelons les listes. Mais par rapport aux candidats, nous avons 1390 candidatures qui sont réparties de la manière suivante. Nous avons 1076 candidatures masculines et 314 candidatures féminines. Nous tenons à remercier tous les partis et groupements politiques ainsi que les candidats indépendants qui sont venus nombreux pour déposer les candidatures dans les 7 circonscriptions dans l'ensemble de la province. Au stade actuel, nous devons attendre que l'Assemblée plénière de la CENI puisse se réunir afin de publier les listes provisoires. C'est en ce moment-là que nous allons savoir combien de candidatures qui sont déclarées recevables pour la province.
Processus électoral encore, mais cette fois dans la ville de Butembo, au Nord Kivu, où on note une augmentation du nombre de candidatures féminines aux législatives nationales par rapport au cycle électoral précédent. Le bureau de réception et de traitement des candidatures dit avoir reçu au moins 25% des candidatures féminines. Grévis Salomou pour les détails.
Sur les listes affichées ce lundi par le BRTC Butembo, on y trouve 72 candidats, dont 25% des femmes. D'autres dossiers sont toujours en cours de traitement, mais pour la chef d'antenne de la CENI Butembo, on observe d'ores et déjà une augmentation du nombre de candidatures féminines aux législatives nationales par rapport au dernier cycle électoral. Georgette Kibendeloa.
Cette fois-ci, je trouve qu'elles sont plus motivées qu'avant. Elles ont commencé les préparatifs bien avant. Elles se sont préparées dans des différents ateliers. Il reste à savoir si elles sont vraiment compétitives. Il faut que la femme prouve aussi qu'elle est capable. Nous voyons qu'elles évoluent. Il faut qu'elles continuent comme ça.
Selon dit, certains mandataires des regroupements et partis politiques s'employent encore à compléter les dossiers de leurs candidats exigés par la CENI. Kambale Sikouhimbire est l'un d'eux.
Nous avons joué d'une grâce. Nous sommes arrivés tardivement. Il fallait avoir tous les éléments nécessaires. Chez certains, il manquait des documents. Chez d'autres, il manquait d'eux. Alors, le temps de les chercher, ça a pris assez de temps de façon que l'office a enregistré un petit retard. Alors, il nous a été demandé de repasser.
Butembo, Grévis Salomou, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, plusieurs quartiers de la ville de Goma ainsi que quelques localités du territoire de Nyiragongo souffrent du manque d'eau potable. La rareté de cette denrée affecte surtout les quartiers périphériques situés au nord et au sud du centre-ville. Pour combler le déficit d'approvisionnement, certains propriétaires des camions-citernes commercialisent l'eau contre le gré des consommateurs. Radio Okapi amorce une série de reportages à ce sujet. Gabriel Wamenya dans ce premier élément.
Sur les 18 quartiers répartis dans les deux communes que compte la ville de Goma, dont 7 dans la commune de Goma et 11 dans la commune de Karisimbi, plusieurs quartiers ne sont pas alimentés en eau potable par la régie des eaux. La situation est la même dans la partie nord en territoire de Nyiragongo, malgré l'installation d'une station de pompage à Bushagara. Les consommateurs d'eau transportés par ces camions-citernes doutent de sa qualité. Ils disent que la plupart des tanks qui la transportent ne sont pas entretenus et présentent de la rouille à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Cette femme rencontrée devant un tank d'eau de fortune venue s'approvisionner en eau témoigne.
Puisqu'on est dans les besoins, on est obligé de prendre ce qu'on a. On ne sait pas si c'est de l'eau pure. On prend ça comme ça. Parfois, même au robinet, ça n'y est pas.
Ils affirment également que les points de captage d'eau consommée sont différents. Certains camions-citernes puisent directement l'eau dans les lacs et la distribuent directement aux consommateurs, alors que d'autres puisent auprès de la régie des eaux. Rappelons que la pénurie d'eau dans certains quartiers de la ville et dans une partie du territoire de Nyiragongo constitue un problème sérieux d'hygiène et expose les habitants de ces entités à des maladies diverses. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Centrafrique, le porte-parole du parti d'opposition URSA a été finalement libéré hier lundi dans la soirée, annonce son parti, après avoir été retenu quelques heures au service des renseignements et d'investigation dans les centres de la capitale. Selon la direction du parti, Serge Gbagbiombo s'est trouvé à son domicile à Bangui lorsque des éléments de la garde présidentielle s'y sont présentés hier après-midi. En Algérie, au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont péri dans des violents incendies survenus dans le nord-est du pays la nuit de dimanche à hier lundi et toujours en cours selon un bilan publié par le ministère de l'Intérieur hier lundi soir. Fin de ce journal qui a été coordonné par Alain Irung. Alain Goy a assuré la technique. Merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.